C'est un grand honneur et une grande joie de vous accueillir, Monseigneur Joseph Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Vous avez succédé à des évêques représentant toutes les parties du monde. Et vous venez de Rome. Vous avez beaucoup insisté sur le fait que dans notre monde, lorsque Dieu n'est pas là, c'est l'enfer. Un monde sans Dieu est un monde infernal. Vous nous avez dit aussi que finalement, seul Dieu peut rendre notre monde humain. Alors j'aimerais qu'on puisse s'expliquer là-dessus. Est-ce que véritablement, dès que Dieu n'est plus là, c'est l'enfer sur la terre?
Il me semble que c'est très visible dans notre monde. Si nous pensons aux grandes dictatures athées, on le voit. Nous avons eu la visite de l'archevêque de Tirana de l'Albanie. Et il nous dit, réellement, c'était un pays détruit spirituellement et matériellement. Et quand même, est resté le désir de Dieu, est retourné Dieu, parce que dans le cœur de l'homme, Dieu est toujours présent. Donc, il y a le danger de la destruction de l'homme par la destruction de l'image de l'homme, de l'image de Dieu dans l'homme. Mais il y a toujours aussi la puissance de Dieu qui est toujours présent et fort dans le cœur des hommes. Et donc, il y a le danger d'un monde déshumanisé, mais il y a la plus grande espérance que Dieu est toujours plus fort.
Ceci dit, ces grandes idéologies, elles sont passées, c'est du passé. Le marxisme est tombé en grande partie, le nazisme, heureusement, s'est terminé. On pourrait se dire qu'aujourd'hui, avec la mort des idéologies, ce n'est plus l'enfer sur Terre.
Nous voyons très bien qu'il y a des grandes souffrances dans le monde d'aujourd'hui, la faim, la violence. Il y a toujours ce danger que, ou Dieu soit abusé avec un fanatisme religieux qui prend Dieu pour les intentions humaines contre le Dieu vrai. Il y a d'autre part toujours le danger de cet oubli de Dieu, qu'on ne veut plus voir Dieu pour être seulement nous-mêmes dans le monde. Je me souviens que Albert Camus a opposé à cette parole du Christ « Mon règne n'est pas de ce monde » la parole « Notre règne est de ce monde ». Donc ce désir que retourne toujours d'avoir le monde seulement pour nous, et cette idée « si nous avons le monde seulement pour nous, ça va bien, c'est beaucoup mieux ». Nous ne devons pas attendre un Dieu qui nous sauve, nous devons nous-mêmes faire le monde meilleur. Et c'est une chose très sympathique. Au premier moment, on pense maintenant que c'est réellement vrai. Le christianisme, dans 2000 ans, comme a dit Marx, n'a pas changé le monde. Maintenant, nous ne devons plus attendre, nous devons faire nous-mêmes la chose. Dieu est absent. Et donc, ce danger dans le changement des idéologies, de penser que Dieu est inconnu, que Dieu est absent, que Dieu n'existe pas, est toujours très présent dans le monde. Et l'idée de faire le monde meilleur est toujours le commencement, un commencement noble, qui quand même, avec l'absence de cette grande lumière et avec la dominance seulement de nos désirs, de nos volontés, devient d'un humanisme qui était intentionnellement en commencement. Ce humanisme se change dans une idéologie destructive. Donc, les idéologies arrivent et disparaissent. Mais, disons, la menace d'oublier Dieu et de faire seulement de soi-même le monde est toujours présente.
Jean Duchesne.
Et oui, une question qu'on a envie de vous poser, Éminence, en vous écoutant. Tout le monde, je pense, ne peut qu'être d'accord. Mais l'objection qui risque de venir est de savoir, Dieu d'accord, la religion d'accord, mais qu'est-ce que l'Église peut rajouter? Est-ce que chaque homme n'est pas finalement libre devant Dieu, libre avec sa conscience?
Oui, l'homme est libre, mais naturellement libre pour la vérité. Et on est donc obligé de chercher la vérité, de chercher la vraie face de Dieu. Et dans ce sens, il a besoin aussi d'une lumière, d'une guide. L'homme n'est pas seulement un être isolé. Chacun cherche pour soi-même son Dieu. La communion en Dieu doit être une communion entre les hommes. Et si nous trouvons le vrai Dieu, c'est le Dieu, le même de Dieu pour tous. Et dans ce sens, la naissance d'une communion humaine de la communion avec Dieu, c'est le signe de la présence de Dieu. Et donc, pensez seulement, chaque personne, c'est bien, cherche Dieu, doit chercher Dieu, mais ne peut pas être isolé dans ce chemin vers Dieu, doit chercher aussi quelle est la communion qui naît dans ce sens. L'Église s'offre comme le cheminement commun vers Dieu et comme une lumière qui n'est pas créée par nous-mêmes, par nos inventions, mais qui vient réellement de la présence du Dieu.
Monseigneur, je voudrais qu'on revienne quelques instants sur le regard que vous portez sur le monde. Parce qu'il peut sembler, en vous écoutant, qu'il est vraiment peut-être un peu trop pessimiste. Vous avez rappelé, je crois que ce n'est pas la première fois que vous rappelez cette phrase de Nietzsche qui dit que lorsque la nouvelle de la mort de Dieu sera partout connue, que sa lumière sera définitivement éteinte, ce moment-là ne pourra qu'être qu'effroyable. Est-ce que ça peut se passer? Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que vous craignez ce moment-là? Est-ce que vous le voyez arriver sur notre terre?
Non, je ne crois pas ça. Parce que, comme j'ai déjà dit, les grands athées, naturellement, étaient convaincus que ce moment vient. Ils étaient convaincus que ce moment, d'une part, est effroyable parce que l'humanité avait toujours pensé que Dieu existe et ayant découvert qu'il n'existe pas, ils doivent recommencer avec la construction du monde. C'était leur idée, mais nous sommes convaincus, il me semble la réalité le prouve, que Dieu réellement est présent dans la profondeur du cœur de chaque homme. Et comme j'avais déjà dit, pour un moment, il peut donner cette apparence que Dieu est disparu, mais il retourne toujours. Donc, les visions pessimistes que j'ai citées ne répondent pas à ma propre vision parce que j'ai la vision d'un homme croyant, d'un homme qui est convaincu que Dieu est toujours présent et retournera toujours. Le moment où la grande lumière s'éteint ne vient pas. Au contraire, dans la plus grande nuit, il y a la plus grande présence de Dieu qui retourne et se fait présent de nouveau dans notre monde.
Ceci dit, quand vous voyez que l'homme peut devenir un objet pour l'homme, vous parlez dans votre conférence de ces embryons que l'on fabrique uniquement pour servir de banque, d'organes pour d'autres êtres humains. Ça rentre un peu dans cette perspective hein, d'une lumière de Dieu qui s'éteint dans le monde.
Oui, il y a ces phénomènes, c'est vrai. Et dans cette situation, on voit de nouveau qu'on commence avec des idées très belles, très bonnes. Nous voulons faire le mieux pour l'homme, nous voulons aider la vie de l'homme. Et tout ça, on fait avec des buts très moraux, avec des idées d'une humanisation du monde. Mais sans ce chemin qui est nous donné par Dieu, le plus grand humanisme devient la plus grande destruction de l'homme. En même temps, je suis convaincu que même dans ces situations que nous voyons, que nous connaissons tous, il y a aussi un renouveau religieux qui, de nouveau, rend présent le vrai humanisme. Donc, je dirais le pessimisme qu'un jour, il y a la tyrannie totale, l'aliénation totale de l'homme, de soi-même et de Dieu. C'est une vision d'horreur qui pourrait venir si nous n'aurions pas l'expérience que Dieu est plus fort et que Dieu se fait toujours présent dans le monde.
Jean Duchesne.
Au-delà du pessimisme, une des difficultés que l'on rencontre actuellement est une difficulté que vous avez rappelée dans votre conférence, dans son début, si je me souviens bien, lorsque vous avez parlé des valeurs. Alors d'abord, le mot valeur est quelque chose qui, si on a fait un petit peu de philosophie, nous rappelle Nietzsche. Et alors, la curiosité ne peut qu'être piquée. On a envie de vous demander dans quelle mesure, jusqu'à quel point vous faites vôtre, ou un chrétien peut faire sienne, la critique des valeurs que l'on doit à Nietzsche.
Disons, il y a quelque chose de vrai, naturellement, dans les critiques de Nietzsche, toujours ces grands athées qui, comme Proudhon, comme des autres, qui ont critiqué le christianisme réel, nous font pensée nous invite à un examen de conscience parce qu'il y a des faiblesses dans notre christianisme, des péchés réellement, comme le Saint-Père l'a confessé dans l'année jubilaire. Et nous devons être très sincères, prendre en sérieux ces objections, mais en même temps voir que c'est un christianisme falsifié qui est critiqué, et d'autre part, avec la radicalisation de cette critique, on détruit pas seulement les falsifications, mais le cœur même des valeurs chrétiennes. Donc on veut la distinction, la discrétion. Et de Lubac, dans ce livre sur l'humanisme athée, a fait, il me semble, dans une manière exemplaire, ce discernement entre les éléments vrais de critique qui nous touchent, que nous devons prendre en sérieux, qui nous invitent à la conversion, et en même temps défendre contre cette destruction radicale, pas seulement de l'apparence, mais de la réalité même, faire revivre et réapparaître dans notre propre vie et dans la communion avec Dieu, l'essence réelle de ces grandes valeurs.
Alors, vous avez prononcé une phrase qui m'a fait réfléchir, qui était, je reprends, les valeurs ne peuvent remplacer la vérité. Alors, je crois que tout croyant ne peut qu'être d'accord. C'est la recherche de la vérité qui doit l'emporter. Néanmoins, est-ce que les valeurs ne constituent pas au moins un terrain commun, une manière de un outil pour le dialogue et pour essayer d'entraîner sur le droit chemin même les incroyants?
Oui, les valeurs sont toujours un territoire commun, mais nous avons vu avec les idéologies du siècle passé que les valeurs séparées de la vérité peuvent devenir aussi très destructives. Aussi le nazisme, et encore plus le marxisme, a lutté pour son idéologie avec des valeurs. Il y avait des valeurs. Certainement. Et seulement parce qu'il y avait des valeurs, il pouvait trouver finalement un consentement assez fort. Et Saint-Augustin nous a montré que l'homme se décide toujours pour une valeur. Il est incapable de se décider simplement pour le non et pour le contre-valeur. Donc la valeur peut être aussi une séduction. Peut-être un moyen de la destruction de l'homme si isolé de l'ensemble de la vision profonde de l'homme et de la vérité même. Et donc, dans ce sens, certainement, les valeurs sont un véhicule de communion entre les différentes positions. Et nous acceptons ça, nous sommes heureux qu'il y a toujours aussi une partie de valeurs qui sont communes avec nous, parce que tout ce qui est valeur est aussi valable pour le chrétien, pour le croyant, mais nous devons tenir réellement présent que la valeur isolée, les valeurs isolées peuvent devenir instruments de falsification, d'erreur et finalement de destruction de l'homme. Nous avons parlé sur la fabrication des embryons, c'est par exemple une chose. Aussi, dans ce moment, on travaille avec valeur, guérir l'homme, libérer l'homme de la douleur, garantir une santé, etc. pour les hommes souffrants. Et quand même, cette valeur isolée de la vision profonde de l'homme comme tel, dans sa profondeur, de la valeur de chaque personne. Chaque personne a le droit de vivre, d'avoir la dignité humaine. Isolée de cette vision profonde, la valeur devient réellement un moyen pour détruire les valeurs.
Et je voudrais revenir sur une phrase que vous avez prononcée et la mettre en lien avec vos fonctions. Et vous avez dit au début de votre conférence, le christianisme n'est pas une philosophie compliquée qui a vieilli au cours du temps. Ce n'est pas un fatras incommensurable de dogmes et de préceptes. La foi chrétienne, c'est être touché par Dieu et témoigner de lui. Ça paraît très simple. Et on se dit, mais comment on peut mettre cette phrase-là en lien avec ce travail que vous faites à Rome, où on a un peu l'impression que vous êtes le grand surveillant du dogme et de la précision du dogme. Alors comment est-ce qu'on peut prononcer à la fois cette phrase-là et passer son temps à justement vérifier si les théologiens respectent bien, observent bien le dogme?
Donc, un premier point pour moi, réellement, c'est très important, garder cette simplicité essentielle de la foi, que, en fondement, c'est le contact avec Dieu, être touché avec Dieu, être en contact avec Dieu, connaître Dieu et vivre dans la présence de Dieu. Mais deuxième point, ce contact avec Dieu crée naturellement aussi une communion humaine parce que le Dieu est le même pour tous les hommes. Si nous trouvons la communion avec Dieu, nous sommes ensemble. Et la communion avec Dieu en Christ, qui est le Dieu présent dans le monde, le Dieu qui a montré sa face, était le rassemblement des hommes. Le Seigneur, dans l'évangile de Saint Jean, dit « Je suis venu pas seulement pour le peuple, mais pour rassembler les fils de Dieu dispersés dans le monde. » Donc, christianisme est rassemblement et finalement seulement le Dieu, qui est notre Créateur commun, qui est notre Sauveur commun, peut rassembler, peut donner l'unité dans cette humanité dégérée par les divisions. Et où il n'y a pas Dieu, il y a cette isolation des personnes, des nations, etc. Connaître Dieu est donc le cœur du christianisme. En même temps, la conséquence nécessaire est le rassemblement du peuple de Dieu dans un chemin commun. Et mon travail est certainement très difficile, très compliqué, et je ne sais pas que si je fais bien tout mon travail, je fais selon ma conscience, mes capacités. L'essence est être dans l'aide pour ce rassemblement, aider dans la communion, le contact avec Dieu qui crée toujours le cheminement commun. Protéger donc la possibilité de trouver Dieu, de voir la face de Dieu, d'être en présence de Dieu. Nous sommes toujours dans ce danger que Dieu se cache, que nous voyons tant de choses et nous ne sommes pas capables de voir aussi la face de Dieu. Protéger la voie, aider dans la réalisation de la foi, c'est la première chose. Et protéger aussi donc la communion dans le chemin commun, dans le rassemblement. Protéger aussi la simplicité de la foi contre l'arrogance de l'intelligence. C'est, il me semble, un grand danger aujourd'hui que les intellectuels se prennent une certaine dominance et une violence intellectuelle, comme avait déjà dit Saint Bonaventure dans son siècle, une arrogance, une violence intellectuelle qui finalement ne permet plus aux simples de rester dans le contact avec Dieu. Et dans ce cadre, nous travaillons toujours aussi avec cette condition fondamentale que chacun est libre de croire dans l'Église catholique ou non, donc qui ne peut plus, selon sa conscience, être dans cette communion, pense qu'on devrait trouver Dieu ou la vraie vie dans un autre champ, il est libre de le faire. Mais disons, aller dans le commun rassemblement implique aussi observer un peu les règles qui doivent être très amples, naturellement, avec un grand respect des diversités, des charismes, des diversités, des dons de l'homme. Quand même, disons, l'accessibilité de Dieu et la possibilité de se rassembler dans cette grande unité dans les dispersions de l'humanité, c'est la grande tâche, il me semble, de notre congrégation.
Luminance, je crois que vous avez prononcé à plusieurs reprises le mot important, qui est celui qui vient à l'esprit lorsque l'on pense à ces questions, c'est celui de liberté. Alors, c'est le mouvement naturel de beaucoup de croyants, par ailleurs sincères, et de dire que puisque j'exerce ma liberté pour adhérer à la foi, pour connaître Jésus-Christ, est-ce que cette liberté ne me donne pas également une liberté intellectuelle? Et au nom de quoi cette liberté intellectuelle que je vais revendiquer pour affirmer telle ou telle chose, au nom de quoi est-ce que l'Église peut mettre des limites à cette liberté intellectuelle?
Je dirais qu'il y a différents niveaux de cette communion avec la foi. Un niveau avec lequel nous avons affaire et dont où nous pouvons donner peut-être le scandale, un nouveau premier est enseigner dans le nom de l'Église. Si une personne s'oblige et accepte la mission d'enseigner dans le nom de l'Église, naturellement les autres qui acceptent cet enseignement doivent avoir aussi une certaine certitude que réellement cette personne fait ce qu'elle dit faire. Elle enseigne pas les propres idées, mais enseigne réellement la foi de l'Église. Donc si une personne accepte la mission d'être maître de foi, dans le nom de l'Église, d'enseigner au nom de l'Église la foi catholique, elle accepte aussi, disons, une limitation de sa liberté. Et si elle ne veut plus enseigner parce qu'elle a des autres convictions, il me semble que ce serait naturel de dire « je ne peux plus accepter cette mission parce que je ne veux plus simplement enseigner ce que dit l'Église. » C'est un premier niveau où il y a réellement une certaine limitation de la liberté, mais une limitation acceptée par la personne elle-même parce qu'elle dit « je peux enseigner au nom de l'Église. Je ne veux pas enseigner ce que je pense seulement moi, mais mon moi est dans la communion de l'Église et de sa foi. » Des autres niveaux permettent plus grande variation, plus grande liberté. Il me semble que c'est important qu'une personne peut se sentir dans l'union avec l'Église, même s'il n'est pas arrivé à accepter tous les contenus. Et cette distinction, il me semble, est fondamentale et peut-être de ce fait que nous avons surtout à faire avec les personnes qui ont accepté cette mission, pourrait donner une impression fausse. En tout cas, si, même sur les autres niveaux, si je suis à la fin convaincu que substantiellement je veux croire dans ce grand moi de l'Église, je veux avec l'Église dire « je crois en Dieu, Créateur, etc. », c'est déjà une transformation, une ouverture de l'existence privée qui devient plus ouverte, qui n'a pas seulement plus ce moi individuel, mais est ouverte et se réalise dans le grand moi de la communion des saints de tous les temps. Et c'est, je dirais, chaque jour une lutte de vivre sa propre personnalité et de faire transformer le moi seulement individuel dans la grandeur de ce moi qui s'exprime dans la confession de la foi.
Dans votre tâche de préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, donc dans cette tâche de protection de la foi, de la protection de l'unité du peuple de Dieu, si je vous ai bien compris, quelles sont les tâches les plus difficiles, les défis auxquels vous avez été affrontés, les plus compliqués? On a l'impression, vu de chez nous par exemple, que la question de ce qu'on peut penser des autres religions, du dialogue interreligieux, constitue un point important, un point difficile sur lequel il faut penser juste.
Oui, donc il y a le dialogue œcuménique où nous cherchons de trouver l'unité chrétienne selon la parole, le commandement du Seigneur. Il y a le dialogue avec les autres religions pour connaître les traces de la présence de Dieu dans ces religions et pour d'autre part, ouvrir le cœur des hommes pour la grande parole Jésus. Et le problème de notre temps, il me semble, est le relativisme religieux. Relativisme est peut-être l'idée connaturelle à un État démocratique parce que ça veut dire aucune personne n'a la vérité comme telle. C'est déjà une intolérance de dire « moi » ou « nous avons la vérité ». On doit toujours relativiser les propres connaissances, les propres confessions, pour être dans la trace de la tolérance qui est le mandat fondamental d'une société libre, d'une société ouverte. Et il y a naturellement une grande vérité dans cette vision, mais quand même, si nous renonçons totalement à la possibilité que Dieu même nous peut donner vérité que nous n'avons pas inventée, que donc il y a une présence de la vérité au monde qui, à la fin, nous sauve tous et nous redonne la confiance dans l'homme, que nous ne vivons pas seulement dans les fragments contraires, mais nous pouvons voir l'essentiel de la vérité. Cette possibilité, on ne doit pas exclure. Et peut-être le grand danger de nous tous, nous sommes contemporains de cette période, nous connaissons les dangers d'intolérance, ce grand danger existe. Et il me semble que c'est aussi un acte, comme avait dit Guardini, d'humilité, de reconnaître que nous ne sommes pas les seigneurs de la vérité, c'est clair, mais Dieu a la possibilité de nous montrer ce que nous ne pourrions pas trouver de nous-mêmes. Et dans ce concert de dialogue, ne perdre pas cette lumière qui est venue du Jésus-Christ dans l'histoire avec le peuple hébreu, dans l'histoire des fils d'Abraham, ne perdre pas cette grande lumière, me semble, c'est la lutte pour laquelle nous, dans cette déclaration Dominus Iesus, aussi avec, dans le dialogue avec Père Dupuis, nous nous sommes engagés. Pas pour exclure le dialogue, la déclaration elle-même parle de ce dialogue et des grandes questions ouvertes qui restent toujours parce que cette révélation nous dit, nous donne la lumière essentielle, mais reste tant de questions à penser par nous. Donc, s'engager pour la présence d'une vérité qui n'est pas à notre disposition, mais est un don pour nous et pour tous, c'est aussi une tâche noble. Nous faisons le possible pour répondre dans la manière que nous pouvons réaliser à cette provocation.
Et je voudrais peut-être, avec Jean Duchesne, que nous revenions peut-être davantage sur l'Église, sur les grandes tâches. Si vous aviez à résumer, justement, c'est le rôle essentiel de l'Église aujourd'hui dans notre monde, qu'est-ce que vous diriez?
Je dirais qu'il y a la tâche essentielle de faire présent Dieu dans le monde. C'est l'essentiel de la mission de l'Église que Dieu réellement est visible, pour ainsi dire, dans le monde. Il est visible dans la face du Jésus-Christ et dans la face du Seigneur que nous a donné soi-même dans le pain et dans le vin. Nous le voyons ce soir dans la liturgie et qui finalement s'est donné soi-même dans la croix parce que le don de la scène est l'anticipation du don dans la croix où réellement il se donne simplement et totalement à nous dans sa mort qui est devenu un acte de l'amour. Et cette transformation d'une violence humaine dans un acte d'amour dans lequel s'unissent l'amour humain avec l'amour infini de Dieu, c'est la transformation et la rédemption du monde que finalement la violence et la mort, les grandes menaces qui détruisent l'humanité et le monde, sont transformées dans amour et donc transformées dans la réalité divine parce que Dieu est l'amour. Dans ce sens, le jeudi saint nous donne réellement la vision de la rédemption essentielle, de la transformation des forces destructives dans une ouverture dans laquelle Dieu même entre dans la terre, entre dans nos cœurs. Et faire voir Dieu, donner la possibilité de comprendre dans la face de Jésus-Christ et dans ce don dans l'Église et pour l'Église, ça implique naturellement nombre d'activités, de tâches. D'une part, une ouverture de l'intelligence humaine pour cette grandeur de la présence de Dieu. Et dans notre siècle de la science, où la science est presque devenue religion et présente généralement jusque dans les jours plus simples, en réalité plus simples de notre vie, peut-être aussi avec la grandeur de la raison qui, dans la science, a appris dominer le monde, en même temps, la raison se limite dans les choses expérimentables et perd de sa vraie grandeur d'aller outre les choses expérimentables jusqu'au cœur de Dieu. Ouvrir donc cette raison qui est grande, en même temps est en danger de se limiter. C'est une tâche essentielle, une tâche préalable certainement pour arriver à la perception de la présence de Dieu. Et en même temps, avec la rencontre avec le Seigneur, avec Dieu dans le Christ, l'éducation dans le chemin de la communion avec Dieu, l'éducation à la sainteté, comme dit le Saint-Père, dans ce grand texte sur le nouveau millénaire, éduquer, éducation pour la capacité d'être dans le contact avec Dieu, de vivre dans la présence de Dieu, et donc la force humanisante de la prière, parce que les signes qu'il y a réellement contact avec Dieu, qu'il y a réellement présence de Dieu, et toujours l'humanisation de l'homme, l'ouverture pour l'amour, si Dieu est l'amour, et si transformation du monde en amour est le cœur du christianisme, ça veut dire que le chrétien doit être un homme qui est dans la piste de Jésus, est un homme qui, dans l'amour, s'engage pour les autres. Donc, cette grande ligne commençant avec l'ouverture de notre intelligence pour Dieu, pouvoir rencontrer Dieu, pour pouvoir vivre dans la communion de Dieu, pour arriver à l'amour, ça, me semble, est la tâche essentielle de l'Église.
Jean Duchesne.
Je suis frappé en vous écoutant, Éminence, de ce que vous avez, vous réussissez à rendre facile et logique quelque chose qui, pour beaucoup de nos contemporains, ne l'est pas, j'ai l'impression. C'est-à-dire que vous avez commencé à parler du Jeudi Saint, de la scène, on aurait pu aussi parler du lavement des pieds, de la façon dont le Christ assume sa passion. Et puis de là, vous avez dit que tout ceci n'a de sens que si, en quelque sorte, on se rappelait le Dieu créateur. Alors, la question, c'est, est-il si facile aujourd'hui? Parce que cela est-il si facile et si évident aujourd'hui? Parce que lorsque l'on regarde le Jeudi Saint, on y voit surtout une preuve de l'amour humain de Jésus. On y voit une preuve de la tendresse de Dieu pour les hommes. Mais on a du mal à voir que c'est, à percevoir en même temps que c'est le Dieu créateur.
Oui, c'est notre perception parce que nous voyons, c'est d'une part une bonne chose, surtout l'homme Jésus. Nous avons appris à relire la Bible, surtout dans son historicité, et de toucher la réalité historique humaine de notre Seigneur. Mais nous ne devons pas perdre de vue que toujours cette humanité du Christ, une humanité très réelle, très complète, est toujours transparente, pas seulement mais unie avec le cœur de Dieu, et redécouvrir dans cette humanité vraie de notre Seigneur, dans son historicité, cette transparence, ce passage de l'homme à Dieu, ça me semble une chose essentielle pour notre lecture, soit de la liturgie, soit de l'écriture. Nous avons donc gagné la dimension historique dans une manière unique qui n'était pas possible avant la méthode historico-critique, mais nous ne devons pas perdre la profondeur. Et si on lit réellement et si on considère réellement le texte et la liturgie, on voit que ce n'est pas seulement un amour humain, le Seigneur qui se donne. Et se donne pas seulement pour les présents, mais pour la multitude. C'est une parole donnée à Abraham, « Tu seras père de la multitude », donc pour l'humanité. On voit tout de suite que c'est une autre chose avec une profondeur plus radicale. Et seulement si nous commençons à comprendre de nouveau l'unité de sauveur, la personne de Jésus-Christ et de Créateur, nous retrouvons aussi toute la grandeur du christianisme. Un sauveur qui ne serait pas Créateur, qui n'aurait pas dans le main aussi le monde comme tel, toute la création, pourrait faire des choses seulement très limitées. C'est toujours à la fin la création comme telle qui nous conditionne et qui doit être réellement donné dans les mains de Dieu et retourné à nous des mains de Dieu. Et nous savons aujourd'hui, avec tous les dangers de la science, de la destruction de notre milieu, que la créature est aussi l'air de notre vie et fait part fondamentale de notre existence. Et voir dans la face du Créateur la face du Sauveur, et connaître dans la face du Sauveur. Déjà, l'amour créateur est fondamental pour nous.
Mais la difficulté peut-être justement d'articuler cette perception de Jésus en tant que créateur, en tant que verbe de Dieu, verbe créateur, et en tant que sauveur, la question que l'homme ordinaire se posera, mais s'il a créé le monde, pourquoi doit-il encore, après cela, le sauver? Autrement dit, la difficulté ici, c'est bien sûr la chute, le péché originel.
Oui, c'est la grande question et il devient certainement très difficile pour nous, avec les idées de l'évolution de l'homme du monde, comprendre encore la chute originelle. Laissons cette discussion qui est très difficile. En tout cas, il est évident que le Créateur voulait donner la liberté à ses créatures. Il voulait donner la liberté d'aimer, et amour peut seulement être libre, il n'est pas amour. Donc, s'il voulait la réponse de l'amour à son amour, c'était essentiellement nécessaire donner la liberté. La liberté implique aussi toujours la possibilité d'abus, et donc cette possibilité d'une liberté faussement usée existe simplement, et nous devons dire que la liberté est le grand don, surtout dans notre siècle, mais depuis la Révolution française, liberté est pour nous le grand don et nous voulons réellement défendre ce don de la liberté. Acceptons ça, c'est réellement le grand don du Créateur. Ce don implique que Dieu risque la rupture, que Dieu accepte ce problème. Il risque la destruction, le non, et il peut lui-même seulement réparer ce problème, pas avec la violence, avec l'omnipotence. Cette puissance du Seigneur doit se transformer dans la puissance de l'amour, dans l'humilité de l'amour. Et ça me semble la grande aventure de Dieu, qu'il risque la rupture, qu'il accepte cette nécessité de renoncer à sa puissance, c'est seulement et simplement l'unique réponse à ce problème, l'unique réponse à la liberté abusée peut être seulement l'amour plus grand. Et donc, si on comprend ça, que pour le Créateur, donner la liberté était une idée essentielle de son acte créateur, risquer la rupture, il a risqué depuis le commencement aussi cette nécessité de se faire petit et de transformer sa puissance universelle en amour universel.
Monseigneur Ratzinger, c'est un jour bien particulier, ce jour du Vendredi Saint où notre Seigneur est mort sur la croix. J'aimerais que, je ne sais pas, en partant de la liturgie, qu'on sait que vous aimez beaucoup, comment vous pouvez nous aider à vivre, à nous mettre dans l'esprit de ce Vendredi Saint, de ce jour unique.
Oui, dans la liturgie, nous voyons la croix élevée devant nous. Nous écoutons l'histoire de sa passion. Dans la parole, la passion devient présente. Et finalement, de la croix et de la passion vient le don eucharistique. Le Seigneur se donne dans nos mains. Et je pense que ces points culminants de la liturgie nous donnent aussi l'intelligence de la foi de la grandeur de ce jour, que réellement Dieu s'est fait petit, que Dieu est tellement grand qu'il peut se faire petit. Et ça me semble pour nous très important. L'homme d'aujourd'hui peut-être reconnaît qu'il y a une certaine géométrie mathématique de l'être, un esprit qui pénètre les réalités matérielles, mais c'est difficile pour nous de connaître que cet esprit universel a une face, pas seulement à un cœur, et que ce logos créateur, cette parole créatrice, n'est pas seulement une grande idée de l'être, est une personne. Et ce Dieu grand, donc, est grand surtout parce qu'il n'est pas seulement raison, pas seulement mathématique de l'être, mais il est grand parce qu'il est amour. Et la plus grande puissance de Dieu n'est pas la puissance de créer le monde. La plus grande puissance de Dieu est cette puissance de se faire amour jusqu'au bout, c'est-à-dire entrer dans la souffrance de l'homme. Pour nous, puissance, ça veut dire les grandes puissances militaires, les grandes puissances économiques, et en grande partie, ce sont puissances de destruction. Et peut-être c'est la mentalité de l'homme pécheur qu'il pense qu'il ne peut plus détruire, à plus puissance militaire, de guerre, est plus puissant dans le monde. Mais ce n'est pas vrai. Dans le vendredi saint, nous voyons que les destructions détruisent et vont jusqu'à un certain point. Qui veut réellement transformer le monde, créer une vraie nouveauté, doit avoir la capacité d'entrer dans le cœur de l'homme, doit avoir la capacité de renoncer à les puissances extérieures et d'entrer dans la compassion avec l'autre. Et donc, ce jour de l'extrême humiliation de Dieu, le jour où Dieu semble mort, et les anciennes liturgies disent « Dieu est mort », ce jour de la mort de Dieu est le jour de la vraie puissance, de l'apparition de la vraie puissance de Dieu qui est entrée dans nos douleurs, entrée dans nos souffrances, entrée même dans la région de mort. Et maintenant, nous savons que Dieu réellement nous est présent jusqu'au moment de l'extrême souffrance et de la mort. Et nous pouvons avoir cette confiance en Dieu qu'il ne nous laisse pas, ne nous laisse jamais. Et à la fin, dans les humiliations plus radicales, nous sommes dans les mains de Dieu. Il y a ce merveilleux psaume où il dit « Même si je serai dans l'enfer, encore je te trouve. Je ne peux pas aller en dehors de ta présence. Je suis toujours dans l'intérieur d'une présence qui est amour. » Et rencontrer dans le Seigneur mort, dans le Seigneur dont l'amour est aussi en même temps la résurrection, et dans ce moment, connaître réellement Dieu, ça me semble le cœur de la liturgie et de la réalité humaine du Vendredi Saint.
Jean Duchesne.
Le Vendredi Saint est un jour difficile pour tous les chrétiens parce que le récit de la Passion du Christ n'a rien de réjouissant. On est confronté à une réalité qui ne peut que faire horreur. Et donc c'est ça qui rend la chose difficile. Et puis d'autre part, il y a aussi ce paradoxe où les fidèles sont invités à chanter des cris de victoire. Et en même temps, le Christ est l'innocent. Il meurt sous le poids du péché et tout ceci a quelque chose de culpabilisant. Si bien que le chrétien est assailli de sentiments un peu contradictoires, une pitié contre laquelle il peut difficilement se défendre, qu'il n'a pas envie, on n'a pas envie de voir. Et puis ces cris de victoire et en même temps ce côté culpabilisant. Comment est-ce qu'on peut maîtriser tous ces sentiments?
Oui, ce n'est pas facile de dire ça en 5 minutes. Mais quand même, peut-être nous avons une lecture un peu unilatérale des récits de la Passion. Pensons seulement que dans le récit plus simple, plus archaïque, dans l'évangile de saint Marc, se termine avec la confession du capitaine romain qui dit « Voilà, c'était réellement le Fils de Dieu ». C'est-à-dire, dans le moment de la mort du Christ, de son extrême humiliation, il voit la gloire de Dieu. Donc il y avait toujours, aussi dans cette passion tellement terrible, une transparence d'une autre grandeur. Et si on lit et écoute attentivement, avec attention, les récits de la Passion avec leurs différences, il y a toujours les deux facteurs. D'une part, la terrible souffrance, la malice humaine et toutes les terreurs desquelles vous avez parlé. Mais il y a aussi en même temps une souveraineté du Seigneur qui souffre, qui entre dans la souffrance plus profonde. Et qui, quand même, ne perd pas son unité avec le Père, avec Dieu. Même l'extrême cri du psaume 21 dans la croix, « Dieu, pourquoi vous m'abandonnez ?» est le commencement d'un psaume qui finit avec dire « Tout le peuple vient pour adorer et tu es devenu notre scène, donc une prévision de l'Eucharistie merveilleuse. Et je pense que ce paradoxe est important, que Dieu réellement, pas fictivement, mais réellement, est dans la terreur et dans la profondeur de la souffrance et de la douleur, et est présent ici aussi, et exactement ici, l'amour. Et peut-être nous devons aussi recommencer à réfléchir sur la douleur et la souffrance. Nous pensons seulement que douleur et souffrance sont les choses opposées à l'humanité, et c'est vrai jusqu'à un certain point, mais il n'y a pas amour sans souffrance, sans cette disponibilité de renoncer à soi-même. Et dans ce sens, il y a un lien très profond entre souffrance et amour. Et le Seigneur a ouvert, je dirais, même les terreurs pour, dans cette dimension où douleur devient un geste d'amour et donc transforme le monde. Et nous-mêmes devons chercher aussi cette capacité de transformer la douleur, la souffrance en acceptation, en amour. Et si nous voyons la vie des saints, nous pouvons voir ça comme ces saints, dans la souffrance, ont donné la présence de l'amour. Pensons à Mère Thérèse, qui est allée à personne mourante. Et ils sont mortes avec un sourire, parce que dans ce moment, ils avaient découvert il y a l'amour. Et dans ce moment, même si extérieurement la mort, la souffrance étaient restées les mêmes, il y avait une transfiguration. Et ça nous fait un peu imaginer le grand geste du Seigneur.
Monseigneur, je voudrais... On est tous appelés aussi à passer par la croix, par la souffrance. Et on a l'impression que, en particulier beaucoup de théologiens, des gens comme le père de Lubac, tous ces gens-là ont souffert souvent dans l'Église et un peu à cause de l'Église. Est-ce que vous avez rencontré ce type de souffrance, ce type de croix dans votre propre ministère ?
Certainement, parce que être en discussion avec les problèmes de notre temps, d'une part chercher à aider dans la foi, d'autre part aussi être obligé de reprocher, etc., et donc trouver des résistances même justifiées, ça montre que la lutte de la foi, l'Église dans ce temps, avec les paradoxes humains, est aussi parce que encore en chemin vers la transformation, cause de souffrance, il me semble, on doit accepter ça, que exactement l'Église doit être aussi le lieu où la souffrance vient accepter, même provoquer, parce que nous hommes sont pécheurs, mais dans lequel il y a aussi la possibilité de donner dans la main du Seigneur nos souffrances et transformer ça. Je me souviens que saint Augustin a défini l'histoire comme la lutte entre deux amours, l'amour de soi-même jusqu'au mépris de Dieu et l'amour de Dieu jusqu'à la renonce de soi-même. Et être dans l'Église, c'est toujours vivre dans la croissance entre les deux amours et chercher d'entrer avec tous nos péchés et avec cet amour de soi-même qui existe dans chacun de nous, entrer dans la vraie partie de cette lutte universelle.
J'aimerais que pour ceux qui souhaitent rester en union de cœur et d'esprit avec vous...
Et donc dans cette compagnie universelle, parce que dans cette liturgie est toujours présent le monde, et nous sentons formellement, nous touchons formellement cette union avec l'Église universelle et avec le Seigneur, et avec cet avènement de la résurrection, que le Seigneur qui a souffert et souffre jusqu'à la fin du monde, comme dit Pascal, quand même est toujours le ressuscité et nous ressuscite dans nos douleurs. Donc pour vos auditeurs, dans cette communion profonde de la prière, de la présence du Seigneur, je vais exprimer mes vœux pour une heureuse communion avec notre Seigneur.
Éminence, cardinal Joseph Ratzinger, un très grand merci.